Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, c'est la Trêve Tennistique. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un maximum d'étoiles et laisser des commentaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur le domaine de la préparation physique. Et pour parler de la préparation physique, un acteur incontournable dans ce secteur, Xavier Moreau. Salut Xav, comment vas-tu ?
Je vais bien, salut Arnaud, bonjour à tous.
Écoute, merci, un grand merci déjà de répondre positivement à mon invitation. Écoute, je suis ravi parce qu'on n'en parle pas beaucoup de la prépa physique et ces dernières années, j'ai le sentiment, et je crois qu'il est partagé par beaucoup d'autres, que la prépa physique a pris quand même une dimension très importante dans tous les sports, mais dans le tennis, on va parler vraiment de tennis. Toi, je vais revenir d'ailleurs très rapidement peut-être sur ton CV pour ceux qui ne savent pas, mais on ne va pas tout énumérer parce que la liste est très longue, mais tu t'es occupé d'Amélie Mauresmo, de Tsonga, tu as été responsable à la Fédé de la prépa physique, tu étais en Fed Cup Coupe Davis. Bon, tu as balayé dans le monde du tennis, en tout cas, tous les plus gros postes qu'on peut avoir. Mais finalement, toi, tu viens, pour revenir sur toi, ton parcours, c'est quoi avant d'arriver à la Fédé de tennis et dans le tennis ? Pour qu'on te connaisse un petit peu mieux.
Au départ, j'étais enseignant en éducation physique et sportive, voilà, en établissement scolaire. Et en parallèle de cette activité, j'entraînais en club régulièrement dans le domaine de la préparation physique très tôt parce que je viens de l'athlète de la boxe. Voilà, et au départ, au tout début, la préparation physique était essentiellement faite par des athlètes, voilà, donc des coureurs de 1500 mètres, des lanceurs de poids, etc. L'athlète était considéré comme la discipline fondamentale donc, qui derrière servait la préparation dans tous les sports. Bon, ça a bien évolué depuis, hein.
Ouais, c'est ça.
Et en parallèle, donc, quand j'entraînais en club, ben, j'ai eu un jour la chance qu'un certain Nick Bollettieri vienne s'installer à plaisir dans les Yvelines. Voilà, à l'époque, il a monté une académie dans un club dans lequel je travaillais. Et en fait, je me suis retrouvé immergé dans le tennis de haut niveau puisque j'allais régulièrement à Bradenton en Floride pendant cette année. Et à l'époque où Iva Maioli avait 17 ans, Hingis avait 11 ans, Tomia 16 ans, il y avait Medvedev, Arias, Courir, Sampras, Rios, Agassi. Donc, je me suis retrouvé vraiment plongé dans le tennis professionnel et j'ai vu comment aux États-Unis, ils abordaient l'entraînement et notamment celui de l'entraînement physique et ça a été ma première révolution. Et puis ensuite, les aventures ont continué.
C'est comme ça que tu as découvert en fait vraiment, enfin que tu as mis un pied en tout cas dans le tennis.
Tout à fait. Le pied dans le tennis, je l'ai mis vraiment à Bradenton.
D'accord. Et tu t'es occupé là de tous les noms que tu viens de citer un petit peu ?
Non, pas du tout. Pas du tout. D'emmener de jeunes espoirs français à l'académie. Voilà. Et donc je vivais au niveau de l'académie. Alors après, j'ai
beaucoup de partage, beaucoup d'échanges.
Voilà, exactement. Beaucoup d'échanges avec des entraîneurs étrangers. Et ça m'a beaucoup appris, je dirais même la principale chose que ça m'a appris, c'est la vision positive qu'ils avaient de l'entraînement, à savoir que leur regard se portait beaucoup plus sur les points forts des gens qu'ils entraînaient que sur les choses à corriger. Et ça a été mon fil conducteur après dans tous mes fonctionnements. En gros, on ne gagne pas en améliorant les points faibles. Alors, pour faire simple, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à les minimiser, mais on gagne plutôt en appuyant très fort sur les points forts, les gars.
D'accord. Et ça, c'est marrant que tu dises ça. Donc, dans la prépa physique aussi, parce qu'on sait que dans le tennis, c'est quand même un leitmotiv et c'est de plus en plus connu, enfin, dans l'état d'esprit un peu américain. Et prépa physique aussi, c'est marrant que tu dises ça.
La
D'accord.
prépa physique également, pour deux raisons. Bon, la première, c'est une raison de performance immédiate. Et puis, je dirais, la deuxième, elle est aussi psychologique. C'est-à-dire que bien souvent, en focalisant sur un point faible, on tire vers le bas, la personne, alors que lorsqu'on bosse sur les points forts et que l'on crée des exercices pour améliorer les points entre guillemets faibles sans que la personne s'en rende compte. Ben, le niveau de confiance, et Dieu sait s'il en faut aujourd'hui, vu l'adversité dans le sport de haut niveau, ben c'est, je dirais, beaucoup plus facile.
D'accord, donc tu fais ces 7 années et ensuite, si
Écoute,
tu
ensuite,
vois le
je reviens
résultat de tout ça.
en France, j'ai mon professorat de sport et je suis assez rapidement nommé à l'université de Paris-Jussieu, qui est une université scientifique, et j'ai une fonction là. De responsable de la préparation physique à la compétition, tous sports confondus, dont le tennis. Cette expérience-là me montre à quel point il est important à un moment donné d'avoir des données objectives lorsqu'on travaille. Donc ça m'oriente sur toutes les notions d'évaluation. Et un de mes formateurs de l'époque me dit, tu sais, dans la complexité, il n'y a pas de courant favorable à celui qui ne sait où il va, un peu comme les marins. Tu as besoin d'avoir des informations objectives parce qu'il y a pas mal de choses, notamment dans le registre des émotions ou autres dans le sport, qui sont difficiles à quantifier. Mais dans ton domaine, la préparation physique, tu as un avantage, c'est que tu peux quantifier les réalisations et les progrès. Et donc là, je m'intéresse énormément à l'apport que les données scientifiques peuvent avoir pour les entraîneurs et comment elles peuvent leur servir d'aide à la décision. Quand je suis à Jussieu, j'entraîne à ce moment-là au stade Jean-Bouin, voilà, puisque c'est une des antennes de l'université de Jussieu. Et là, je croise régulièrement un entraîneur physique de la Fédération française de tennis, voilà, qui s'appelait Frédéric Roche à l'époque. On se croise souvent et un jour, il me dit qu'il va quitter la Fédé française de tennis et il me dit « Pourquoi tu n'y vas pas? Je pense que ça t'intéresserait. » Voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé pendant 4 années ensuite à la Fédération française de tennis à diriger la prépa physique.
D'accord, ok, c'est Fred Roche.
Donc c'est que des aventures.
Des
Quand on
rencontres.
parle de carrière, plan de carrière ou autre, ça m'a toujours fait sourire parce que moi, c'est à chaque fois des moments, des opportunités, des relations, des échanges qui ont fait que j'ai changé d'orientation professionnelle.
Ok, voilà, c'est hyper intéressant. Donc là, ok, et puis derrière, bon, bah, le tennis, t'es dedans et t'en sors plus. Donc
Je suis immergé dedans.
totalement, hein, à fond. Et c'est génial d'ailleurs. Donc, toi, justement, c'est hyper intéressant, c'est de mettre en avant, tu parlais des évolutions aujourd'hui qui ont pu avoir lieu ces dernières années. Ça fait quelques années maintenant, pour le coup, que tu es quand même de très près sur justement cette discipline, sur le tennis. Qu'est-ce qui te semble avoir évolué le plus sur la prépa physique? Il y a plein de trucs sur lesquels on va revenir après, parce qu'on voit notamment la longévité, tu vois, des athlètes. On voit que ça joue de plus en plus longtemps. Je pense qu'il y a des liens entre tout. Le médical, évidemment, j'imagine que vous bossez, tu parles de données objectives, mais c'est des équipes qui sont de plus en plus compétentes, évidemment. Mais c'est quoi les évolutions majeures que tu as pu voir, toi, ces 10-15 dernières années?
Pour moi, les évolutions majeures, alors il y en a une que je vois et dans le sport en général et dans le tennis, c'est l'accélération des vitesses de jeu. La notion de vitesse aujourd'hui, que ce soit la vitesse de déplacement des joueurs sur un terrain, que ce soit la vitesse de déplacement des objets, des balles en l'occurrence là, c'est pour moi l'une des évolutions majeures. La deuxième, c'est l'arrivée en force de la technologie, où aujourd'hui les joueurs ne disent rien, mais bon, là encore, j'étais dans une académie à l'étranger. Les gars, ils ont des GPS derrière leur maillot. Enfin, il y a collecte d'informations en permanence qui permet d'avoir une approche très qualitative des entraînements. On sait exactement les distances parcourues, les accélérations. Donc on a de plus en plus d'informations très objectives sur ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je pense que ça remet à sa juste place un autre domaine qui est très important, qui est le mental. C'est que on est à la fois capable de dire ce, où en sont les joueurs dans leur performance, de l'analyser très clairement, et donc derrière, bah, de mettre à sa juste place la gestion des émotions, le stress et comment ça influe sur les capacités des joueurs à produire leur performance. Donc ouais, je dirais la vitesse, la technologie. Alors pour moi, la vitesse de jeu, elle a eu comme conséquence, et elle vient plutôt d'abord de l'évolution des matériaux. Je pense que les raquettes, on est passé quand même, je vais très très vite, mais du bois à l'aluminium, à la fibre de verre et aujourd'hui au graphite avec le carbone. Donc les raquettes, elles sont plus légères. Elles ont des rigidités qui permettent à la fois du contrôle grâce au nouveau cordage, mais beaucoup plus de puissance aussi et du contrôle. Et les joueurs sont devenus physiquement aussi beaucoup plus forts. Voilà, donc c'est pas faire offense aux anciens. Tu vois, quand on dit souvent ça, le jeu va pas beaucoup plus vite. Je sais que des fois ça vexe certains copains. J'en parle avec des anciens, mais il y a aucun jugement de valeur. C'est objectif. Les vitesses de déplacement aujourd'hui, que ce soit de la balle ou des joueurs, c'est devenu phénoménal. Donc, et ça, pour moi, c'est lié et aux matériaux et aux capacités physiques des sportifs qui se sont grandement élevés. On peut voir ça dans d'autres sports, hein, sur le rugby, par exemple. Quand on regarde les matchs de rugby aujourd'hui, entre les impacts, les vitesses de jeu des joueurs, les vitesses de déplacement, c'est phénoménal. Donc, un des enjeux pour moi dans la préparation physique, ça va être de travailler sur cette capacité à accélérer, cette capacité à aller vite, cette capacité à réagir vite, donc les notions de temps de réaction. Il y a des joueurs dont je tairai le nom qui travaillent aujourd'hui beaucoup et s'inspirent du boulot des pilotes de Formule 1 sur les temps de réaction. Ils vont dans les mêmes labos au niveau international. Ils vont travailler la même acuité visuelle. Parce que la perception de la balle aujourd'hui, vu les vitesses de déplacement, l'œil, c'est comme un muscle, ça se travaille. Ça,
c'est pas quelque chose d'inné, il y a une part d'inné, mais c'est un truc que
tu peux développer. Exactement. Alors, comme dans tout, tu as raison, il y a une part d'inné, hein, faut pas se le cacher, on n'est pas tous égaux en termes de qualité physique, en termes d'intelligence, mais moi, je trouve ce qui fait la noblesse du boulot d'entraîneur, c'est de ne pas considérer comme acquis cette part d'inné, sans jeu de mots. Mais bien au contraire, de dire que chez chaque joueur, il y a un potentiel de performance. Et quand bien évidemment le capital inné est très élevé, eh ben, les possibilités de performance exceptionnelles seront d'autant plus élevées.
Mais quand tu dis que tout va beaucoup plus vite, globalement, en vulgarisant un petit peu, les conditions de jeu, pourtant, on parle ces dernières années, ces 10-15 dernières années, d'une homogénéisation un petit peu du jeu, donc des surfaces qui sont plutôt ralenties, des balles un peu plus lentes aussi, globalement, un matériel donc, en effet, qui permet plus de contrôle plutôt que de la vitesse dans l'absolu, tu vois, quand tu parles du cordage notamment. Mais c'est justement un peu pour est-ce que ça vient, il n'y a aucun paradoxe, hein, c'est peut-être justement en lien avec ce que tu avances, il faut aller plus vite parce que justement les conditions de jeu sont peut-être plus lentes, j'en sais rien, est-ce que ça va te perdre ou pas?
Alors je pense objectivement sur les vitesses, moi dans les mesures que l'on a, ce sont ouais. les vitesses de déplacement de la balle, même si il y a des surfaces abrasives ou autres, ça va plus vite. Et l'un des constats que l'on fait, c'est que ce rapport espace-temps, les joueurs essayent en plus de prendre de plus en plus de temps à l'adversaire, de moins en moins quitter la ligne, et tu te retrouves à avoir beaucoup plus, par exemple, d'appui ouvert, parce que c'est un appui multifonctionnel qui permet à la fois de se freiner sur un déplacement latéral et en même temps de frapper. Et nous, par exemple, en prépa physique, ce genre d'appui-là, qui devient plus fréquent, tout comme les glissades des joueurs sur dur. Alors, moi, j'en parlais avec des équipementiers. On a des joueurs qui arrivent à pleine vitesse et qui doivent se freiner sur un appui. Bon, ben, toutes ces appuis qui doivent devenir très brefs pour répondre très vite aux vitesses de jeu, ils ont comme conséquence d'être beaucoup plus exigeants musculairement. Parce que pour pouvoir se freiner sur un appui, ça signifie des niveaux de force au moment de l'impact au sol qui sont très, très élevés. Je te donne un ordre d'idée. Pour quelqu'un qui fait 90 kilos, c'est des pics de force qui sont supérieurs à 300 kilos. Alors, c'est très bref, mais quand musculairement, tu n'es pas en capacité d'encaisser ça, eh ben, ce qui se passe, c'est que tu vas doubler ou tripler ton appui. Mais si tu veux te freiner sur un seul appui, tu vas être obligé d'être équipé musculairement. En deux, pour aller de plus en plus vite dans les échanges et répéter ces sprints, l'un des facteurs importants, ça va être la consommation maximale d'oxygène. Donc aujourd'hui, on la mesure. La répétition de sprint dans un match, elle est liée à la fois à cette consommation maximale d'oxygène pour entrer dans la technique et à ta puissance musculaire. C'est les deux gros éléments qui vont faire que tu vas pouvoir répondre à cette évolution du jeu pour pouvoir prendre du temps à l'adversaire, mais aussi par rapport à cette accélération des vitesses de jeu, pouvoir y répondre de façon performante.
Et une fois que tu as toutes ces données, justement, aujourd'hui, tu parles de données scientifiques, très objectives. Est-ce que tu as, et toi-même, dans ta manière de travailler, tu as évolué, enfin, j'imagine un petit peu, ces 10-15 dernières années par rapport à ce que tu faisais, dans le sens où, avec ces données, tu travailles principalement sur le terrain, la prépa physique, ou en dehors, tu peux aussi la travailler de manière enfin, justement efficace pour le tennis.
Alors écoute, les deux, j'allais te dire les deux Arnaud, en fait, ça, pour moi, ça dépend du temps de formation. Sur un joueur professionnel aujourd'hui, je le travaille essentiellement sur le terrain maintenant. J'ai évolué, donc je fais dans ce qu'on appelle dans notre jargon, je fais beaucoup de préparation physique intégrée. Pourquoi ? Parce que vu la lourdeur du calendrier de compétition et vu les durées dont on dispose pour pouvoir répondre à du développement de qualité physique, j'aurais pas le temps de dire écoute, il faut pas qu'il soit là trop sur le terrain parce que moi j'aurais besoin de l'avoir pour lui développer telle ou telle qualité. Donc je travaille beaucoup plus, on va dire, de façon spécifique, et pour moi il n'y a pas plus spécifique que de le faire sur le terrain. Je vais prendre un exemple. La consommation maximale d'oxygène aujourd'hui, ben je vais plutôt la développer en calibrant des entraînements avec l'entraîneur tennis qui, dans un premier temps, fait sa séance comme il en a envie. Et à un moment donné, au milieu, on va injecter une forme de travail que je vais calibrer, sur laquelle je vais prendre des données cardiaques, des données de vitesse de déplacement qui vont me permettre de travailler spécifiquement ce que je veux bosser avec le joueur.
Donc, tu veux dire que tu travailles de plus en plus avec l'entraîneur tennis.
Aujourd'hui, je pense que… Alors ça, pour le coup, c'est une certitude. Le préparateur physique et la préparation physique, c'est un moyen au service de l'entraîneur tennis. Pour moi, le chef d'orchestre, c'est l'entraîneur tennis. Et je suis, moi, incapable de travailler si je n'ai pas une feuille de route de la part de l'entraîneur tennis qui me dit, ben, globalement, avec mon joueur, la base de jeu… Voilà ce qu'elle est, voilà ce vers quoi on a envie de s'orienter. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'analyse le profil physique du joueur, je le montre à l'entraîneur et je lui dis, écoute, voilà, ses points forts, c'est ça, les voies d'amélioration, c'est ça, la base de jeu que tu veux mettre en place, elle fait appel à telle et telle qualité physique. Pour l'instant, elles sont là, ou alors, elles ne sont pas toutes là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on oriente le travail. Voilà. Et pour moi, c'est un boulot d'équipe. Tu parlais du médical aujourd'hui, tu parlais des kinés. Je dirais, pour les joueurs professionnels, aujourd'hui, l'organisation ressemble énormément à la Formule 1. C'est-à-dire que c'est un travail d'équipe au service du joueur. Alors, avantage, c'est que tu as beaucoup de compétences autour du joueur. Inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, donc il faut, à un moment donné, cadrer ça. À mon avis, celui qui doit le cadrer, c'est le coach tennis, parce que c'est lui qui, en plus, est en dernier rempart avant que le joueur rentre sur le terrain. Voilà, donc il y a une organisation à trouver autour de l'ensemble de ces acteurs, mais le travail d'équipe, pour moi, est devenu indispensable.
Tu arrives aujourd'hui, donc toi, tu t'occupes d'un certain nombre de joueurs, tu arrives vraiment encore à développer des qualités physiques. Je fais référence, comme tu dis, au calendrier surchargé, parce que c'est vraiment important de dire justement à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, que des trêves, il y en a une vraiment dans l'année. Tu vois, après Bercy ou après le Masters, pour ceux qui s'y sont qualifiés, il n'y en a que 8 en Masters, mais Mais donc, tu as quoi? Tu as un mois et demi, 2 mois maximum, avec un peu de vacances parce qu'il faut souffler. Donc, tu as un bloc de 4 à 6 semaines en général. Justement, ça, c'est intéressant que toi, tu en parles d'une année un peu type sur laquelle tu essaies et à quel moment et comment, enfin, justement, tu arrives à développer encore. Je parle vraiment de développement des qualités physiques.
Écoute, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe chez les pros, c'est qu'il n'y a plus vraiment de période hivernale, tu sais, où tu faisais un gros bloc et puis ensuite le joueur partait. Je vais prendre l'exemple des qualités musculaires. Aujourd'hui, on a une certitude pour répondre à la vitesse de jeu qui s'est énormément accélérée, en tout cas sur les déplacements où le joueur a besoin d'aller très, très, très vite. C'est que cette vitesse de déplacement, elle est liée aux possibilités de force du joueur sur son bas du corps. Là, en gros, rapporté au poids de corps, les joueurs les plus rapides sont les joueurs qui sont capables d'exprimer le plus de force en appuyant sur le sol. Or, cette force-là, quand tu t'en vas sur le circuit, si tu fais un bloc et que tu la développes, et qu'ensuite tu passes sur le circuit, si tu n'as pas de rappel, elle chute progressivement. Donc, de tournoi en tournoi, je dirais, les possibilités de vitesse de déplacement du joueur se limitent insidieusement. Donc, l'une des règles d'or maintenant, c'est que même en tournoi, les joueurs continuent de s'entraîner au niveau des qualités. Alors, sur des volumes qui sont beaucoup plus faibles, bien évidemment, puisqu'ils doivent rester disponibles pour matcher, donc il ne faut pas que ça leur entame leur fraîcheur physique, mais ça peut être un quart d'heure, 20 minutes d'effort, mais sur des intensités qui sont extrêmement élevées. Et d'où la nécessité d'avoir des données fiables sur le joueur. Parce que moi, je vais prendre un exemple sur un soulevé de barre hexagonale, mettre 200 kilos à un joueur, ben, sincèrement, il y a 20 ans, je ne l'aurais jamais fait. Aujourd'hui, quand je sais ce que va représenter cette charge par rapport à ses possibilités maximales et je sais que je suis dans le vrai, j'ai moins de problèmes pour lui faire ce que tu as appelé, avec des gros guillemets, hein, parce que quand on dit piqûre de rappel, tu vois à quoi ça me fait penser, mais quand on fait ce rappel de qualité, eh ben, aujourd'hui, on est en capacité de le faire. Alors, je peux te donner un exemple, hein, pour Amélie, tu vois, même si ça date, lors de sa finale au Masters contre Marie, le matin, elle avait besoin d'un exercice pour travailler sa vitesse de déplacement et qui lui servait d'échauffement. Elle a soulevé, maintenant il y a prescription, elle a soulevé, elle s'entraînait sur une presse horizontale, elle a fait 2 répétitions, 2 fois, à plus de 200 kilos sur une jambe, enchaînée par 2 petits sprints de 10 mètres. C'était pour elle à la fois le fait de rappeler son niveau d'explosivité, mais dans sa tête aussi, ça lui montrait qu'elle y était, parce que elle avait les éléments en disant, bon, ben, j'y suis. Donc, ça a contribué aussi à sa mise en confiance. Ça a un rôle sur la dimension psychologique. Mais pour revenir à la question initiale, c'est une façon d'entretenir et de développer dans le temps, sur la saison, les qualités.
Enfin, la question, je te la pose à toi. Tu vas me dire oui, c'est normal, mais je sais que tu prêches pas pour ta paroisse. Mais la dimension physique, avoir un préparateur physique aujourd'hui à ses côtés quand on est athlète de haut niveau dans le tennis, c'est indispensable.
C'est indispensable d'avoir toutes les personnes dont je t'ai parlé initialement, c'est-à-dire.
Mais tout le monde ne peut pas les avoir aujourd'hui. Tout le monde n'a pas les moyens aujourd'hui d'investir sur autant de personnes dans son staff.
Et c'est pour ça que ça, on parle bien, là je dis bien, je parle bien des joueurs de tennis qui sont sur le circuit professionnel, etc., qui peuvent vivre de leur activité. Derrière, il y a heureusement en France des systèmes de formation, la fédération, des académies, etc. Donc, là, je pense que là où il faut faire attention, c'est que là, on est en train de parler des points de détail de développement des qualités physiques chez les pros. Je ne pense pas tout à fait la même chose pour des jeunes en formation. C'est-à-dire que, par exemple, cette fameuse préparation physique intégrée chez les professionnels, autant elle peut servir pour donner du sens à nos plus jeunes, pour leur faire comprendre que des exercices de renforcement musculaire vont avoir un intérêt pour leur déplacement, que les exercices de développement de leur endurance, les fameux intermittents, vont avoir un intérêt pour leur endurance sur le terrain. Mais je pense que chez les jeunes, il faut aussi travailler leur détermination à faire des efforts par eux-mêmes en les accompagnant. Donc, En gros, les étirements chez les pros, il y a des kinés qui leur font, etc. Ils sont sur une table, ils ont besoin de souffler par rapport à tout ce qu'ils font. Chez des jeunes, je considère qu'un jeune qui a bien été éduqué ou autre, il est en capacité d'aller faire ses étirements tout seul dans une salle. Donc, on n'est pas...
Tu ne dis pas que c'est moins spécifique ? C'est pas moins spécifique ou ça allait un petit peu et que ça le devient progressivement quand même ?
Alors, c'est pas forcément moins spécifique. C'est pas forcément moins spécifique. Mais je pense qu'il faut, à un moment donné, que les jeunes soient accompagnés pour qu'ils soient de plus en plus autonomes. Paradoxalement, quand ils seront professionnels, il y aura beaucoup de monde autour d'eux. Mais le professionnel, il est totalement autonome dans son combat sur le terrain. Ah, il développe déjà, à un moment donné, une énergie astronomique. Voilà. Chez nos plus jeunes, il faut les former à ça.
Comment aujourd'hui, donc là, on est sur deux populations un peu différentes, hein, c'est ce qu'on dit. Et donc, tu peux aussi partager un préparateur physique, hein, et c'est ce que font, j'imagine, certains pour pouvoir bénéficier d'un suivi quand même régulier. Toi, tu l'as fait d'ailleurs à distance aussi avec certains joueurs.
Je continue de le faire. Oui, on peut travailler à distance. Oui, c'est délicat quand on travaille avec plusieurs joueurs parce qu'il y a un système de concurrence, surtout quand les joueurs sont proches en classement. Moi, je l'ai vécu au premier chef puisqu'à l'époque, Marie, Pierce et Amélie s'entraînaient ensemble et à la finale du Masters, ben, je me suis retrouvé à aller dans la niche en haut des tribunes ben, parce qu'entraînant les deux, je ne pouvais ni être dans le box de l'une ni être dans le box de l'autre. Voilà, donc par moment, il y a des problèmes comme ça, mais globalement, je crois que c'est moins problématique pour le préparateur physique que ça ne l'est pour l'entraîneur tennis.
Là, tu suis un joueur en particulier ?
Oui,
ouais.
Je suis plusieurs joueurs en particulier. Je suis Joe Tsonga, je suis toujours les mêmes, Jérémy Cardi, ouais. Lucas Pouille, Hugo Humbert et Grégoire Barrère, mais tout ça en équipe avec d'autres entraîneurs physiques, avec Jean-Michel Lévesque, avec Gérald Cormery. Voilà, on travaille à plusieurs. Et en général, il y en a un qui est, entre guillemets, référent du programme d'entraînement. Mais moi, j'aime bien partager justement, entre guillemets, le suivi du joueur parce que ça évite l'usure du discours. Ça permet aux joueurs d'avoir accès à d'autres méthodologies d'entraînement. En revanche, on a un fil conducteur, c'est-à-dire tout le monde a les références sur les qualités du joueur, c'est-à-dire son niveau au plan musculaire, son niveau au plan énergétique, son niveau de souplesse, les problématiques médicales. Tout le monde a le dossier joueur. Et on se met en copie l'ensemble des séances que l'on envoie. Comme ça, tout le monde est toujours au courant de qui fait quoi. Donc, c'est un vrai travail d'équipe.
D'accord. Non, c'est... Ouais, donc, mais tu... Et donc, vous avez chacun un petit peu... Vous êtes référent, c'est ce que tu dis, chacun un petit peu de...
Voilà. Jean-Michel Lévesque est référent de Nicolas Mahut depuis des années.
D'accord.
Tu vois, et, mais moi, ça ne m'empêchera pas d'entraîner Nicolas. Tout comme Jean-Michel Lévesque a déjà entraîné Lucas, a déjà entraîné Joe. Bah, c'est un vrai partage.
Sur, c'est pareil, hein, on essaie de faire un peu de pédagogie. Dans le tennis, donc on a des matchs et des tournois pour la plupart du temps qui sont en 2-7 gagnants. Et là, tu passes sur les grands chelems où tu dois, chez les hommes en tout cas, gagner 3-7 et donc pouvoir jouer 5 manches, les enchaîner. Comment tu prépares tout ça ? Est-ce que c'est un travail très différent justement en amont d'une tournée qui va se passer en 2-7 gagnants ou alors, évidemment, celle qui se conclut avec un grand chelem à la fin ? Comment toi, dans la prépa physique, comment vous l'abordez-vous aujourd'hui, ça ?
Alors, sur le... Bon, c'est effectivement différent puisque bon, un grand chelem, ça veut dire que tu peux te retrouver à faire des matchs supérieurs à 3h30, voire même parfois 4h, 5h. Donc, en fait, je dirais que ça se prépare tout au long d'une année, d'une part, et ça se prépare sur plusieurs années. Donc, d'où la nécessité, là encore, pour moi, d'avoir des données. Je vais faire des comparaisons avec d'autres sports. Un gars comme Martin Fourcade, aujourd'hui, en ski de fond, quand il a été au top, c'est le fruit de plusieurs années d'accumulation d'entraînement pour améliorer ses qualités d'endurance et ses qualités techniques de glisse pour arriver à ce niveau de performance. Nous, on se met dans cette échelle de temps aussi assez longue. Quand on prépare physiquement, on essaye de se soustraire à la dictature de l'immédiateté. Vraiment, on s'inscrit sur le très très long terme en se disant aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comme qualité physique pour pouvoir se cogner 3 ou 4 matchs potentiellement de 4 ou 5 heures, voilà, contre des joueurs forts. Moi, pour moi, le premier élément, ce n'est pas un élément physique, ça va être un élément technique. Et d'où pour moi le rôle essentiel de l'entraîneur tennis, c'est qu'on dépense d'autant moins d'énergie qu'on est propre techniquement. Et on se blesse d'autant moins que l'on est propre techniquement. Et je pense qu'il faut vraiment replacer la notion technique, et je mets derrière technique, la technique de déplacement, les techniques de frappe, etc. Donc la formation de nos jeunes à cette dimension-là. Pour moi, la prépa physique, elle n'est pas prioritaire dans ces moments-là. Ce qui est prioritaire, c'est de construire le bagage technique et ce qui va avec le bagage tactique, donc la relation à l'entraîneur sur la façon d'aborder tactiquement les matchs, pour qu'ensuite le moteur qui va être mis derrière soit utile. Mais mettre du moteur sur, alors même qu'il n'y a pas ces fondations-là, je pense pour moi que c'est un axe qui n'est pas bon. Et si la technique et les aspects tactiques sont bien mis en place, effectivement là, ben, le fait de travailler avec des données objectives sur tu en es où dans le domaine de tes qualités d'endurance? Est-ce que les valeurs d'excellence dont on dispose au niveau international, tu en es proche ou tu en es loin? C'est un fonctionnement. Aujourd'hui, on a la chance de connaître les consommations maximales des meilleurs. On a des banques de données depuis 25 ans, de connaître les qualités musculaires des meilleurs en tennis et dans les autres sports. Toutes ces données-là, on les a. Et on est en capacité de faire des corrélations entre des niveaux de performance et des niveaux physiques. Donc, le tennis étant composé de qualités complexes, physiques, mais aussi des temps de réaction avec l'œil, du travail technique, c'est pas du vélo, je veux pas dire que le vélo est pas technique, mais voilà, il y a une grosse dominante énergétique au vélo, le coup de pédale, c'est cyclique. En tennis, il y a de l'appréciation des trajectoires, je frappe des balles à différents niveaux, et coup droit et revers, etc. Donc, c'est plus complexe. Cela étant, quand ces bases techniques sont bonnes, on sait comment il faut élever le moteur. On sait que si une consommation maximale d'oxygène est insuffisante, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du jeu, pour le coup, le joueur soit vraiment limité. Il ne réussira pas sur des matchs en grand chelem à répéter des sprints. S'il a une petite consommation maximale d'oxygène, ça n'est pas possible.
C'est marrant parce que je t'écoute parler de technique et c'est vrai que nous, on fait souvent des raccourcis et on est souvent pointé du doigt en France, tu sais, une formation qui mise un peu trop justement sur la technique plutôt que sur la dimension mentale qui peut permettre justement des déblocages, peut-être même physiques et techniques d'ailleurs. Et je trouve que c'est, comment dire, le danger. Alors, je ne sais pas si quand tu parles de technique, est-ce que c'est être efficace plutôt? Parce qu'à la fin, aujourd'hui, et à chaque fois, on l'a reproché à la formation française, c'est de dire, bah, par exemple, si Jim Courier avait été français, il n'aurait jamais fait la carrière qu'il a faite. Tu vois ce que je veux dire?
Mais alors, je vais préciser ma pensée. Quand je dis technique, attention, ce n'est pas la beauté gestuelle, ce n'est pas du tout ça. Derrière technique, et là pour le coup je reviens à mon passage à Bradenton, c'est-à-dire pour moi c'est des fondamentaux techniques. Là-bas par exemple, ils accordent énormément d'attention à la qualité du jeu de jambes. À la qualité du jeu de jambes, le tennis c'est un sport de déplacement pour pouvoir ensuite frapper une balle. Et leur argument, c'est un argument qui paraît très logique, si t'es pas bien placé, t'as beau avoir une bonne main, c'est un sport de précision, t'auras du mal à être efficace. Donc, quand je parle de technique, c'est vraiment une qualité d'abord de jeu de jambes. Ça, c'est le premier point. Et derrière, là, à Bradenton, il parlait très peu de la main ou de la gestuelle. Il parlait beaucoup des intentions. Donc, il ne parle pas d'un modèle technique dans lequel tu dois mettre tous les joueurs. Il parle d'une efficacité technique. Comme tu disais, courir, il a fait du baseball. Il avait une préparation. Quand on regarde aujourd'hui jouer Daniil Medvedev, Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs qui puissent apprendre à frapper la balle comme lui la frappe. En revanche, sur les fondamentaux techniques, la qualité de son jeu de jambes, d'être en appui au moment de la frappe, d'être tout le temps derrière la balle, etc., etc., ces fondamentaux-là, et que les entraîneurs de tennis connaissent encore mieux que nous, ceux-là, ils sont respectés. Et c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'améliorer des qualités de force musculaire de quelqu'un si systématiquement, dans l'organisation technique de son jeu de jambes, il n'y est pas du tout. Voilà un peu le...
Ouais, bien sûr, non, mais je comprends, c'est pour ça que je voulais, tu vois, qu'on
Ouais.
précise un peu les choses, parce qu'on a tendance à caricaturer, enfin, je trouve un petit peu, tu sais, sur la technique,
Bien
et je pense
sûr.
que c'est plus efficacité en effet.
Ouais, tout à
Et
fait.
sur la partie, tu vois, aujourd'hui, quand tu mets tout ça en place, j'ai l'impression aussi que finalement, enfin, ton rôle et le rôle de la prépa physique dans la tête d'un athlète joue énormément sur la dimension mentale, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est intimement lié. Plus tu te sens fort physiquement, et plus tu es armé pour aller sur le terrain et affronter un peu n'importe qui, non?
Ben,
Est-ce que tu ressens, en fait, toi, enfin, ma question est peut-être un peu indirecte, est-ce que tu as l'impression, enfin, et tu le sais, enfin, qu'il y a, de manière indirecte, encore une fois, cette dimension très psychologique et mentale dans la préparation physique?
il y a cette dimension psychologique et mentale tout à fait qui est même exprimée par les joueurs. Ils te le disent quand ils ont fait une préparation dans laquelle ils ont eu à faire des efforts très durs qui les a obligés à s'employer et qu'en plus ils ont objectivement les données comme quoi ils ont progressé, ils se sentent plus forts pour aller derrière jouer et j'allais dire jouer. Le tennis aujourd'hui, certes c'est un jeu, mais c'est un sport de combat.
Parce que
C'est un
tu
sport.
disais ton exemple sur Amélie avant la finale du Master, enfin, c'est quand même de se sentir prête avant tout, et c'est presque un truc mental, quoi.
Bien sûr. Elles se
On est
sentent
bien
prêtes, mais tu
d'accord.
sais, c'est comme en haute montagne. Si tu vas pour faire l'ascension de l'Everest et que tu n'es pas préparé et que tu es à 500 mètres du sommet et n'étant pas préparé, tu ne vas plus regarder le haut du sommet, tu vas regarder vers le bas si tu ne vas pas tomber. Si tu es prêt et que tu as fait des efforts astronomiques pour pouvoir faire cette ascension, même si à un moment donné tu te sens un peu en difficulté, tu vas regarder vers le haut de la montagne en disant par où je passe pour aller là-haut. Donc je pense qu'effectivement, le fait de bien se préparer, mais je dirais physiquement, comme là encore tennistiquement sur le terrain, c'est-à-dire que même si on parlait de l'évolution aujourd'hui, si tu me demandais quelles sont les évolutions, je pense qu'une des évolutions majeures, c'est qu'il y a une approche qui est plus qualitative de l'entraînement par rapport à avant, à une approche qui était plus quantitative, on parlait beaucoup de volume. Alors je ne veux pas dire par là qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire de volume, loin de là. Mais je pense que ce volume est plus qualitatif. On sait encore mieux cibler les entraînements, donc ce qui est d'ailleurs d'autant plus difficile pour les joueurs, parce que quand on leur dit qu'ils vont faire une séance difficile, on est capable de les laisser pendant un temps donné, précisément dans cette séance très difficile. Exemple des footings avant, on allait cavaler en forêt, il n'y avait pas de cardio-fréquence-mètre, il n'y avait pas tous ces trucs-là. D'ailleurs, les jeunes énergies aujourd'hui, nous critiquent suffisamment en disant, mais comment ça, vous ne travaillez pas avec ça? Donc, j'arrête pas de leur dire, les gars, arrêtez de dénigrer les anciens parce que les anciens, ils n'avaient pas les technologies que vous avez aujourd'hui pour travailler. Donc, vous, aujourd'hui, vous avez plutôt intérêt à bien travailler parce que vous avez tous les éléments d'information que nous, on n'avait pas. Mais maintenant qu'il y a ces éléments d'information, je dirais, on peut faire du volume, mais qualitatif.
Donc on est beaucoup plus précis, on est beaucoup plus pointu.
Exactement.
Est-ce que tu crois que c'est pour ces raisons principalement que les joueuses et les joueurs jouent plus longtemps?
Oui, parce que je pense que derrière, en étant plus qualitatif, on doit logiquement contribuer à mieux préserver leur intégrité physique. On est capable, par exemple, de détecter plus facilement un surentraînement. Objectivement, moi je l'ai fait avec plusieurs joueurs, il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de dire, attention, il est un peu dans le rouge. Ça ne veut pas dire que derrière, il ne peut pas continuer ou autre. Après, il faut jauger, mais on est capable de
On
détecter ça.
détecte plus le surentraînement que l'inverse ou...
Alors, le sous-entraînement, ça se voit très, très, très vite. Parce que moi, je prêche pour, alors, non pas emmerder les gens qu'on entraîne, les sportifs qu'on entraîne avec des données chiffrées. Je pense que s'ils s'intéressent à ça, tant mieux. Mais toutes ces données-là, elles sont surtout pour nous. Pour moi, elles doivent être transparentes au niveau de l'entraînement. Mais on a la chance aujourd'hui que les outils embarqués sont très simples. Dans une séance de muscu, on est capable de repérer les vitesses de déplacement des charges, etc. Et ça nous permet de voir la réalité des états de fatigue ou pas. Et derrière, de pouvoir donner du temps de récup ou ne pas en donner, mais de façon, je dirais, pensée, raisonnable, et non pas de façon hasardeuse.
Toi, avec ton regard d'expert, quand on voit les trois ogres actuels, Federer, Nadal et Djokovic, ils t'impressionnent, eux, physiquement ?
Ouais. J'ai la chance de les voir assez souvent dans les vestiaires. On voit bien les routines. À Nadal, il a des routines d'entraînement. Et je trouve que l'une des forces de ces gars-là, c'est d'être capable de répéter des choses simples, aussi rébarbatives soient-elles. Ils répètent, parce que c'est dans la répétition qu'ils arrivent à se construire cette fameuse solidité, cette confiance. Et je pense que dans la société, on parlait de l'évolution du jeu. Aujourd'hui, on est dans une société de l'immédiateté, du zapping, de la rapidité. Et paradoxalement, c'est l'opposé des ingrédients qu'il faut pour construire de la haute performance, qui sont plutôt de la régularité, de la constance, de la détermination, voilà, et de la récurrence. Voilà.
Mais, et par exemple, enfin, des trois, on met souvent en avant les qualités physiques de Djokovic et surtout de Nadal, parce que son engagement, surtout. Mais Federer, on en parle un peu moins parce que c'est plus délié, c'est plus fluide, plus élégant, plus aérien, tout ce, enfin, presque. Alors, si je dis talentueux, je vais me faire taper dessus parce que on ne sait pas où on met, hein, ce mot et quelle définition on en fait, peu importe. Mais c'est en tout cas comme ça que le grand public le voit. Je crois que là, je ne me trompe pas. Toi, quand tu vois et que tu regardes Federer physiquement, c'est aussi impressionnant.
Ouais, bah c'est. Tout à l'heure, je parlais du jeu de jambes. Quand tu regardes
le déplacement.
Voilà, au niveau du déplacement, Federer, dans toutes les actions de frappe qu'il a, c'est d'une propreté au préalable du déplacement qui fait que sa technique gestuelle à la frappe, elle peut s'exprimer de façon hyper efficace. Donc, d'une part, hyper efficace en matière de précision, mais hyper efficace aussi en matière de coût énergétique.
Donc ça, c'est la qualité d'œil ou c'est un travail en amont très important qui lui a permis d'atteindre ce...
Alors, je pense qu'incontestablement, il y a de l'acuité visuelle derrière ça, mais le jeu de jambes au préalable, bon, il y a la prise d'information pour au moment où il déclenche sa reprise d'appui, où il se décale vers la droite, vers la gauche, etc. Oui, il y a de l'acuité visuelle, mais il y a une organisation gestuelle du jeu de jambes qui est liée à l'apprentissage qu'il a eu initialement. Et quand on prend les jeux de jambes de Nadal, de Murray, de Djokovic, qu'on regarde, si tu les mets, même s'ils s'expriment, entre guillemets, des qualités physiques peut-être différentes, il y a des similitudes, à un moment donné, qui sont très claires.
Voilà. C'est sur la prépa physique aussi, moi, ce qui me surprend, c'est de voir, et tu en as parlé, d'un Medvedev qui fait 1m98 et qui a une couverture de terrain et un déplacement digne d'un gars qui fait 1m80. Est-ce qu'on s'oriente vers ça ? C'est ça le tennis de demain, un petit peu ? Alors attention, ça ne veut pas dire, encore une fois, ne faisons pas de raccourci, qu'il n'y a pas de place pour des joueurs plus petits. Il y aura toujours de la place pour tout le monde. On est bien d'accord. Mais globalement, est-ce que ceux qui vont faire peut-être plus mal, entre guillemets, seront ceux qui feront 2 mètres et qui se déplaceront comme des plus petits ?
Ce qui est certain, c'est que un Medvedev, compte tenu de sa taille, ça veut dire qu'il a des bras de levier qui sont beaucoup plus longs. Donc, si, d'une part, il a une qualité de jeu de jambes, et ce qui est réel aujourd'hui, qui est très efficace, qu'il est placé et que derrière, à la frappe, compte tenu de son bras de levier, il peut exprimer ses qualités, bah oui, il va faire très mal. Mais tu l'as dit, en tennis, je trouve que l'avantage, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire, un Medvedev, il va bénéficier de son bras de levier et de la qualité de son jeu de jambes. Derrière, un joueur, je prends le petit Gaston, que l'on a vu, petit gabarit, et ben, lui, si son niveau de force en dessous lui permet de se déplacer très, très, très vite, ben Medvedev, même si sur l'amplitude de ses pas, il va couvrir une plus grande distance, bon ben le petit Gaston, il va le faire avec une autre qualité. Mais il ira aussi vite avec des qualités différentes. C'est ça que je trouve hyper intéressant dans le tennis, d'où la nécessité pour moi d'avoir à chaque fois une vision très objective du profil physique du joueur pour accompagner le travail de l'entraîneur tennis. Je ne serais pas travaillant autrement aujourd'hui et heureusement que les informations et la techno peuvent nous accompagner parce que je pense que sinon, ce serait très compliqué. Ça serait pour moi comme conduire une Formule 1 sans avoir de repère de vitesse.
Là tu disais que, tout à l'heure que vous êtes un groupe d'entraîneurs au service de plusieurs joueurs. Vous-même, vous échangez avec d'autres préparateurs physiques d'autres disciplines, avec d'autres préparateurs physiques d'autres fédérations, enfin, dans le tennis. Ouais, y a cette volonté vraiment d'aller échanger, partager, récupérer éventuellement, s'inspirer de choses peut-être nouvelles qui se font aussi ailleurs.
Alors, je ne vais pas être angélique, hein. Il y a des entraîneurs qui ne veulent pas partager. Parce que pour eux, on est dans un système de concurrence et le fait d'avoir telle ou telle information, voilà. Moi, ma conception, c'est que pour moi, l'information, ça n'a jamais fait la performance, la valeur. Ce qui fait la valeur, là, c'est réel, c'est le fait de mettre en relation plusieurs informations au service du joueur et de l'entraîneur. C'est ça la valeur d'un système. Et là, effectivement, ça, j'aurais tendance à moins le partager. Mais le fait de connaître la VO2 max d'un gars et sa valeur, c'est pas ça qui va me donner, ça me donne un potentiel. Mais en revanche, son profil et la mise en relation des informations, ça oui, ça a une vraie valeur aujourd'hui. Et on partage beaucoup d'informations avec les entraîneurs. Donc, moi, j'ai beaucoup dans tous les sports. Donc, sur la valeur des qualités physiques aujourd'hui dans le foot, en rugby, voilà. Donc, dans le domaine de l'endurance, dans le domaine de la force musculaire, dans le domaine de la coordination, on partage beaucoup d'informations. En revanche, ce qu'on partage moins, c'est la façon dont on les traite.
D'accord. On parle beaucoup de Paganini, tu sais, qui s'est occupé donc, de la formation suisse, notamment de Federer, de Wawrinka. Oui. Tu as échangé avec lui ?
Alors, avec Paganini, on s'est pas beaucoup croisé, donc j'ai pas échangé, mais j'ai lu des articles de lui et je partage assez souvent. Ce qu'il dit notamment, par exemple, sur quand il parle des joueurs professionnels, en disant qu'il fait beaucoup de préparation physique entre guillemets intégrée sur le terrain. Alors là, pour le coup, Roger, on le voit très très rarement s'entraîner. On a très très peu d'images. Il partage très peu d'images. Je sais que c'est la mode des réseaux sociaux, moi j'y suis pas, mais apparemment il y a très très peu d'entraînement de Roger Federer sur les réseaux, en tout cas dans le domaine physique, c'est très confidentiel. Mais quand on lit les articles de Paganini, c'est souvent des exercices qui sont faits sur le terrain et qui sont en relation étroite avec les attentes de l'entraîneur tennis. Ouais.
Demain, le tennis du futur, vers quoi on tend? Alors, dans la prépa physique, là, tu as vu les évolutions de ces dernières années, tu dis que tout va de plus en plus vite, on va pouvoir aller encore plus vite?
Je pense que comme le potentiel, les joueurs sont beaucoup plus forts physiquement, ils évoluent encore physiquement, je pense que ça ira plus vite, d'où, à mon avis, un gros travail qui sera fait sur la prise d'information visuel. Je pense qu'il y aura dans ce domaine-là, ça va beaucoup bouger. Le deuxième domaine, à mon avis, qui va beaucoup bouger, c'est tout le travail qui va être fait sur la capacité à répéter des sprints. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle d'endurance, moi, dans le tennis, j'ai plutôt l'impression que le jeu évolue vers la capacité à répéter des accélérations. soit je vais, si ça joue en deux coups, c'est des courses qui sont très très rapides. Donc, et tu retrouves ça, je reprends. Hein, en rugby, je crois que c'est Thibaut Giroud que je connais un tout petit peu, avec lequel j'ai échangé. On parlait de ça sur les capacités d'accélération des joueurs de rugby. Aujourd'hui, ils travaillent énormément là-dessus. Ballon en main, comment tu parcours même une très petite distance à très très grande vitesse. Voilà, quels sont les ingrédients par rapport à tes qualités physiques qui vont te permettre de faire ça? Donc, la capacité à répéter des sprints. Bon, pour moi, l'état actuel de nos connaissances, elle dépend de deux valeurs dont je t'ai parlé, la consommation maximale d'oxygène et la puissance musculaire des joueurs. Ça, on sait l'évaluer, mais il y aura certainement d'autres avancées. Donc, prise d'information, capacité à répéter des sprints. Et enfin, je dirais ce que j'ai appelé au sens très noble du terme la technique, donc l'efficacité gestuelle et des déplacements, non pas un modèle technique, mais une efficacité, c'est-à-dire la capacité à dépenser le moins de jus possible. Donc, pour faire une similitude avec la Formule 1, ça serait l'aérodynamisme, le coût énergétique de tes efforts. Aujourd'hui, tu parlais des impacts dans la vitesse de déplacement. Une des évolutions que j'ai vues, et moi j'ai commencé à connaître quand j'étais à Bradenton, et qui m'avait surpris, c'était que là-bas, André Agassi faisait un renforcement musculaire régulier. Mais quand je te parle de renforcement musculaire, c'est au sens large du terme. C'est-à-dire qu'il travaillait ses qualités d'explosivité avec des charges légères. Il travaillait ses qualités de puissance avec des charges moyennes et il travaillait ses qualités de force maximale avec des charges très 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 lourdes. Et j'avais été surpris parce que à l'époque, en France, la musculation était considérée comme nocive pour le tennis. Alors pour le haut du corps, je t'en parle pas, on me disait que ça nuisait à l'efficacité du geste, à la fluidité. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage. Donc je me suis vraiment renseigné. Aujourd'hui, quand on est sur le circuit, les joueurs râlent quand il n'y a pas de salle de renforcement musculaire parce que la musculation est devenue un élément incontournable pour prévenir les blessures. Quelqu'un de fort, notamment sur le bas du corps et sur le haut du corps au niveau de l'épaule, du coude, etc., est quelqu'un qui est d'abord protégé. La musculation, elle sert d'abord à protéger à condition que les charges utilisées soient adaptées à la personne.
Mais on n'en a pas parlé, mais la prépa physique, on a parlé beaucoup de développement, mais on est bien d'accord, c'est beaucoup de prévention aussi.
Beaucoup de prévention. C'est, je dirais même, musculation pour moi, c'est d'abord prévention, avec un travail en étroite relation avec les kinés. Et la musculation, dans un deuxième temps, elle va conditionner la performance, elle va conditionner la qualité du déplacement, elle va donner les moyens physiques pour que le déplacement aille vite, et elle va conditionner la qualité de frappe. Ça ne veut pas dire que les joueurs vont taper toute leur force parce qu'ils sont plus costauds, mais ça veut dire qu'ils ont un réservoir de force qui leur permet d'exprimer cette force à différentes vitesses en fonction de leurs décisions tactiques.
Sur la dimension de la récupération, c'est plutôt là le service médical où vous êtes aussi partie prenante.
On est étroitement associés, donc dans la récupération, il y a les aspects très techno aujourd'hui avec l'utilisation du froid. Il y a beaucoup de joueurs.
Ça se fait de plus en plus vraiment.
Beaucoup plus, de plus en plus. De
Sur les
plus en plus.
tournois,
Les grosses
tu arrives à
structures de haut
trouver.
niveau aujourd'hui se dotent de la cryothérapie, se dotent des boots qui permettent de faire le froid. Le froid est un très grand anti-inflammatoire. Les joueurs, au niveau de la récupération, ont maintenant des bilans nutritionnels. Un Andy Murray, il a un accompagnement nutritionnel, mais ultra sérieux derrière ses efforts. Voilà, il y a des choses qu'on connaît. On sait que dans la demi-heure qui suit l'effort, il faut refaire une partie de ses réserves énergétiques. Toutes ces règles commencent à être connues même dans le milieu amateur, et tant mieux. Mais il n'y a plus rien qui, je dirais, qui est laissé
Au hasard.
au hasard.
Pour finir, un sujet un peu tabou peut-être. D'après toi, on parle de physique, de dépassement de soi, d'aller toujours plus loin. Tu vois où je veux en venir?
Je vois, je te vois
On
arriver,
parlait
je te vois arriver.
de piqûre de rappel. Est-ce que tu crois qu'il y a la tentation aussi dans le tennis de prendre des produits dopants pour être plus fort, pour être meilleur?
Je pense qu'il peut y avoir la tentation. Et je pense que là, nous, en tant qu'entraîneurs, on a un rôle essentiel à jouer. Le premier, c'est que après la vie d'un sportif professionnel, après sa vie de sportif professionnel, il y a une vie d'homme. Et toucher à des produits comme ça, c'est hypothéquer fortement son après-carrière au niveau de sa santé. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je dirais qu'aujourd'hui, justement, l'approche qualitative des entraînements dans un sport comme le tennis permet de donner le potentiel pour être performant. Parce que le tennis, là encore, ce n'est pas un sport énergétique. Si je ne veux pas caricaturer, mais si on parle d'un sport purement énergétique, tu me vois arriver avec le vélo, voilà, ou des choses comme ça, bien évidemment qu'on sait pourquoi il y a eu beaucoup de dopage dans ce sport-là, qui a d'ailleurs terni les progressions de gars qui n'ont jamais touché à ça, et c'est ça qui est dégueulasse. Mais cette tentation-là était forte parce que le sport s'y prête. Mais la performance de tennis, elle est plurifonctionnelle. On l'a dit, ce n'est pas parce que tu as une grosse VO2 que tu vas gagner un grand chelem. Ça ne marche pas comme ça. Il y a trop de qualités imbriquées les unes aux autres pour pouvoir qui conditionnent cette performance. Donc, je dirais, l'avantage du tennis, c'est ça par rapport au dopage. Et aujourd'hui, en plus, on a les moyens d'accompagner les gars pour qu'ils soient performants. En revanche, ça demande de la constance, de la détermination, de la répétition. Et c'est à ça qu'il faut former nos jeunes. Et ce n'est pas au zapping. Des fois, j'entends quelque chose qui est le mot ludique. Tu as dû entendre ça en tant qu'entraîneur physique. Il faut faire des choses ludiques parce que tu comprends, là, ils répètent des efforts et c'est un peu rébarbatif. Mais ce qui est ludique, c'est de gagner. Ce qui est ludique, c'est de se préparer pour être compétitif et pour gagner. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser en faisant certains exercices. Mais le caractère ludique ne peut pas être la priorité aujourd'hui pour aller chercher de la performance dans un sport qui est devenu un sport de combat. Et qu'encore plus un sport de combat aujourd'hui.
J'espérais que tu dises ça et tu l'as dit, heureusement. Évidemment que ce n'est pas que de la dépense énergétique et c'est pour ça que de toute façon, je pense que c'est beaucoup plus complexe, même si en effet certains peuvent être tentés, tu as raison. À la fin, il y en aura toujours très peu. On sera globalement, je crois, préservé pour cette raison. Je crois vraiment, tu l'as dit. Écoute, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, ça fait déjà presque une heure de parlotte. C'est pas mal quand même. Hein.
C'est passé très vite.
Oh, c'est passé très très vite. Écoute, merci pour moi, merci pour tous ceux qui nous écoutent d'avoir vulgarisé surtout ton propos. Très précis. Merci mille fois, Xavier. C'était vraiment chouette.
Merci à toi.
De t'avoir à mes côtés. Eh bien voilà, Deep Talk, c'est déjà terminé. Un grand merci à Xavier Moreau pour cet entretien. N'hésitez pas à écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. À très bientôt. Ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.